Avec mes baninons, je l'embrasse et je lui dis qu'en fait c'est lui, en fait c'est lui, en fait c'est lui.
Radio Pleine Lune, 93,8 MHz. Nous avons donc écouté cette conférence d'Elisabeth Banater sur ce thème de la ressemblance, de la fin du patriarcat. Pour elle, le patriarcat est mort. Vive la ressemblance, vive l'ère de l'androgynie, vive l'ère du même. Alors moi, la première réaction que j'ai pu avoir en lisant son livre et en l'écoutant, c'est dire, mais en tout cas, elle n'a pas écrit un ouvrage de philosophie, elle a écrit un roman, elle a écrit une utopie, une espèce de rêve, où elle présente vraiment l'avenir rose, l'avenir rayonnant de la ressemblance, et elle présente tout ce qui reste encore comme discrimination, comme trace très présente, très prégnante, très réelle du patriarcat, comme des anachronismes. Alors nous, on ne vit pas tout à fait ça, on vit un peu autre chose. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, la première réaction que j'ai eue, elle est comme la tienne, quoi. C'est-à-dire que je me suis posé la question si Madame Badinter, qui nous présente une fresque des rapports de sexe du néolithique à nos jours, c'était effectivement un ouvrage de fiction. Ou si c'était un conte, enfin si c'était un ouvrage qui rendait compte des études qui ont pu être faites en histoire, en anthropologie et en sociologie, et si vraiment cet ouvrage pouvait être crédible. Ça, c'était ma première réaction. Ma deuxième réaction, qui était d'ailleurs provoquée pour une grande part justement par la lecture de la partie sur l'histoire contemporaine, c'est celle-ci, quoi. Si Madame Badinter, elle traite l'histoire, discipline où moi j'ai pas l'impression d'avoir des compétences particulières, en tout cas certainement pas aussi étendues que les siennes. Si elle traite l'histoire et l'anthropologie comme elle traite la sociologie contemporaine, moi j'ai de sérieux doutes alors vraiment sur la crédibilité et la véracité de ce qu'elle affirme. Bon, voilà en gros quoi, quand elle dit page 220 que Ève a mis fin à la division sexuelle du travail et que les femmes mettent fin à la division sexuelle des rôles, bon, à mon avis c'est vraiment méconnaître l'état de la situation des femmes, tant vis-à-vis de l'activité professionnelle que du travail domestique. Bon, ça, c'était ma deuxième réaction, quoi. Bon, après, on pourra en discuter, parce que je pense qu'il faut vraiment donner un peu des statistiques sur l'état actuel de la condition féminine, des rapports de sexe, et qu'on ne peut absolument pas faire l'impasse de toutes les études qui ont été faites là-dessus depuis une dizaine d'années, quoi.
D'ailleurs, moi, j'étais aussi choquée quand j'ai lu son livre et j'ai trouvé que c'était, scientifiquement, que c'était malhonnête. Que même, déjà, j'étais pas d'accord avec les idées, mais de plus, les preuves qu'elle donnait à ses idées, je trouvais qu'elles étaient mal présentées et faussées souvent. Par exemple, elle présente à la fin beaucoup de statistiques, et elle montre ça en disant, voilà, c'est la preuve, vous voyez, il y a plein de femmes divorcées, il y a plein de femmes seules, il y a plein de femmes qui travaillent, il y a plein de femmes qui ont une profession, c'est la preuve de ce que je dis. Alors moi, je dis, on peut pas présenter les statistiques comme ça, ça veut rien dire, parce que si on, par exemple, la statistique des femmes seules, elle donne un chiffre en disant, voilà, il y a tant de pourcents de femmes seules, c'est la preuve qu'on est, on est dans l'androgynie. Alors, les femmes seules, il y a plein de réalités. Il y a des vieilles veuves qui restent après leur mari qui est mort. Il y a des femmes divorcées qui se sont fait plaquer. Il y a des femmes qui ont fait carrière. Il y a des femmes qui ont fait le choix de faire des enfants seuls. Enfin, il y a 10 000 situations et on ne peut pas mettre tout ça sous le chapeau de l'androgynie.
Oui, justement, si on aborde justement ce qui effectivement a changé, c'est les nouvelles formes familiales, c'est-à-dire qu'effectivement les gens, les couples vivent plus de la même manière, les femmes vivent plus de la même manière. Il y a effectivement des choses qui ont changé au niveau des formes familiales. Mais hormis les problèmes de concubinage, de résistance que les gens peuvent avoir à se marier, etc., il y a aussi ce qu'on appelle les familles monoparentales. Ouais. C'est-à-dire, alors moi j'ai un peu cherché autour de ça parce que je trouve que c'est un vocable assez intéressant, quoi. Ça masque en grande partie une réalité très 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 réelle, effectivement, et statistique de ce phénomène. C'est-à-dire que les familles monoparentales, donc celles qu'on appelle les familles monoparentales. C'est les familles, entre guillemets, d'un adulte, constituées d'un adulte, élevant seul ses enfants. Hein. Alors bon, parlons des familles monoparentales. Alors quand on regarde les familles monoparentales, il y en a à peu près, enfin en 82, il y en avait à peu près 1 million en France. Hein. Alors il y a sur 750 000 personnes qui ont une activité professionnelle, parmi celles qui élèvent seules leurs enfants, il y a 70% de femmes. Hein. Qui sont majoritairement des ouvrières et du personnel de service. Hein. Sur 180 000 personnes considérées comme inactives, c'est-à-dire qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, c'est 82,7% de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Donc les familles monoparentales, je veux dire, on voit ce que c'est, quoi. C'est à 80% des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Alors effectivement, bon, on peut se poser la question, quoi. Hein, ce que ça veut dire que ces femmes seules libérées qui élèvent leurs enfants.
Nous recevons un téléphone de quelqu'un qui veut faire un commentaire, alors je la passe en ligne. Attendez. Voilà. Tu m'entends ?
Oui.
Bien, alors on écoute ton commentaire.
Oui, moi ce qui m'a beaucoup choqué dans la conférence de Mme Badinter, c'est qu'elle remet pas du tout en cause le fait qu'il y ait des recherches génétiques et des recherches qui coûtent des millions pour faire un homme enceint, alors que la majorité de la population de la Terre est en train de crever de faim et de guerre. Et ça me choque beaucoup par rapport à la vision globale de la Terre et de la population.
Oui, moi aussi d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur cette histoire d'homme enceint, mais là aussi je trouve que au niveau simplement de ce qu'affirme Elisabeth Badinter, on peut mettre en question ce qu'elle affirme, parce que quand elle dit c'est scientifiquement possible, c'est pas vrai, elle rêve, c'est pas du tout vrai que scientifiquement c'est possible de faire un homme enceint, parce que les seules expériences à ma connaissance qui ont été menées, c'est des expériences sur des femmes qui avaient des grossesses extra-utérines, et il y en a très très peu, je crois qu'il y en a une dizaine qui en sont arrivées à mettre, qui donc ont pu accoucher comme ça, et je crois que c'est la seule chose qui a eu vraiment eu. Alors, c'est vraiment du rêve de dire que c'est une réalité.
Et puis des rêves qui coûtent des millions aussi.
Aussi, oui, parce que ça veut dire que, en plus, même si c'était possible, je crois effectivement que ça coûterait tellement cher qu'il n'y a aucun État qui pourrait assumer ça à grande échelle.
Ouais. Merci.
De rien. Au revoir et merci d'avoir téléphoné. Vous êtes sur Radio Pleine Lune et vous pouvez bien sûr nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Alors tu parlais donc de ces familles monoparentales et tu montrais la différence qu'il y avait entre être femme chef de famille et aussi homme chef de famille.
Bah oui, parce qu'en fait, je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, quoi, il y a 80% des familles parmi les familles monoparentales, il y a 80% de femmes. Hein, je veux dire, ça explique, je veux dire, ça donne déjà un tableau assez idyllique de la situation. Et en même temps, la grosse majorité de ces femmes, c'est des femmes qui sont effectivement dans les professions les plus déqualifiées. Ceci étant dit, je veux dire, contrairement à ce que dit Mme Badinter, je veux dire, elles ne sont pas les seules. Je veux dire, si on regarde les statistiques de l'emploi, je veux dire, là, on est assez déconcerté, quoi, par les affirmations que Mme Badinter fait. Quoi.
Moi, j'aimerais lire une phrase que j'ai trouvée magnifique. Elle dit quelque chose de très, très beau. Voilà. À l'ère de l'ordinateur, nul se soucie plus de distinguer les tâches féminines et masculines. Alors c'est beau, je crois qu'elle n'est vraiment jamais entrée dans une boîte, elle n'a jamais vu des femmes à la saisie et des hommes à analyse programme.
Non mais elle est professeure à l'école polytechnique, il ne faut pas tout confondre.
Et puis il y a une autre phrase qui est magnifique aussi, elle dit « Depuis 1972, la mixité est effective de la maternelle aux grandes écoles d'ingénieurs ». Alors qu'est-ce que tu penses de cette belle phrase ?
Alors là, j'ai trouvé assez superbe, quoi. Vraiment assez superbe, parce que effectivement, pour ceux et celles qui ne savent pas, Mme Badinter, je veux dire, et professeur de sciences humaines, je veux dire, à l'école polytechnique. Alors, école polytechnique, je veux dire, pour les Suisses, c'est le nec plus ultra des grandes écoles françaises. Hein. Bon, la mixité, je veux dire, dont elle dit qu'elle est établie, date d'à peu près une dizaine ou une douzaine d'années. Je veux dire, c'est une école militaire. À l'origine, je veux dire, qui été faites pour créer les cadres et l'élite de la nation française. Hein. Alors, effectivement, les femmes peuvent entrer à Polytechnique. Mais quand on regarde les statistiques, je veux dire, de la structure des emplois en France et par sexe, alors là, on rit, quoi. Parce que, je veux dire, moi, ça m'évoque beaucoup ce qu'on disait sur les ouvriers qui pouvaient rentrer à Polytechnique, quoi. Hein. Il suffit qu'il y en ait un en 10 ans pour qu'on dise que c'est ouvert, quoi. Hein. Mais alors, les statistiques de l'emploi, là, en France, qui donnent une vision photographique des catégories socioprofessionnelles, c'est-à-dire un peu des types de professions dans lesquelles les gens sont. Alors, les ingénieurs, qui font partie des professions libérales et cadres supérieurs, il y a 0,2% en France d'ingénieurs femmes. Voilà, juste pour dire, quoi.
Et je crois qu'à Genève, il y a 0,5% de femmes cadres. Mais effectivement, c'est même plus des femmes d'un Libye maintenant. C'est fantastique, parce qu'à partir de ces petits chiffres, on peut construire tout un discours.
Ah oui, non, mais c'est assez superbe, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'il ne faut pas quand même dire qu'il n'y a pas de choses qui ont changé. Hein, c'est vrai. Enfin, et en particulier dans le milieu de Madame Badinter, ça a changé réellement. Je pense qu'effectivement, il y a des femmes qui arrivent à avoir des carrières professionnelles, moyennant quoi, je veux dire, on a quand même... Je veux dire, d'autres femmes à la maison, parce que, je veux dire, ça présuppose quand même qu'il y ait quelqu'un à la maison qui fasse le ménage, s'occupe des enfants. Bon, ça, je veux dire, c'est évident. Mais c'est vrai que dans la structure des emplois, il y a des choses qui ont changé. Je veux dire qu'il y a quand même un peu plus de femmes cadres. Bon, en France, elles sont 5,7%, alors qu'il y en a 10 poussières d'hommes. Les femmes sont évidemment, comme par hasard, principalement... regroupées, je veux dire, dans les professions les plus déqualifiées, quoi.
Et même dans les cadres, elles sont jamais très très peu cadres supérieurs. C'est vrai qu'il y a plus de cadres femmes, mais ça reste les cadres inférieurs.
Non, alors moi je parlais des cadres supérieurs. Hein. Les cadres moyens, je veux dire, alors là c'est intéressant aussi quand on regarde la structure de l'emploi des cadres moyens, hein, parce que bon, les femmes, elles sont... Les cadres moyens, c'est ce qui correspond un peu aux infirmières, aux secrétaires, je veux dire, au personnel enseignant, hein, mais aussi les techniciens. Alors moi, je me suis amusée comme ça parce que je trouvais drôle, quoi. Enfin, comme je travaille là-dessus, quand même, ça m'a un peu... Je me suis dit, je dois être complètement à côté de la plaque. Quand j'ai écouté Badinter, je me suis dit, non, je me plante, quoi. On est plusieurs, d'ailleurs. On est nombreuses à se planter depuis un certain nombre d'années. Mais bon, je me suis dit, quand même, je vais vérifier les statistiques parce que ça doit tellement avoir changé que je m'en suis pas rendu compte. Eh ben non, non, non. Alors là, justement, dans les cadres moyens, comme tu dis, quoi, bon, ben, il y a effectivement pas mal de femmes. Pas mal de femmes, mais sauf chez les techniciennes. C'est-à-dire qu'il y a 17,9% de femmes cadres moyens contre 12,7% d'hommes. Mais par contre, chez les techniciens, le pourcentage est complètement inversé. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien, bon, quand on regarde un tout petit peu bon, les professions dites féminines, y compris bon, dans les cadres moyens, donc, hein, que les femmes sont cantonnées dans un certain type de professions qui sont celles de la santé, du secrétariat, enfin bon, les professions sociales et d'enseignement. Quoi. C'est en gros là-dessus, je veux dire, même pour les cadres moyens. Bon, alors après, on pourra parler des autres catégories professionnelles où elles sont majoritaires, quoi. Alors là, pour le coup, quoi.
1, 2, 3, 4 aller dehors. J'ai oublié la clé à l'intérieur du nord. J'ai oublié la clé à l'intérieur du nord. Et le matin, voilà, je m'arrache. Oh, je suis fixée dans la PNP.
Radio Pleine Lune, 93,8 MHz. Nous parlons toujours de Badinter, à partir de son livre et de sa conférence. Alors, il y a quand même quelque chose que j'aimerais dire. Je pense que l'analyse de Badinter, elle a quelque chose de juste quand elle dit yes, nous sommes dans une période charnière, nous sommes dans une période où il y a eu un changement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense que ça peut-être explique une partie du succès de ce livre, hein, parce qu'on en reparle là. Je crois que ce livre a eu un énorme succès. Alors, est-on vraiment à une période de charnière? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a vraiment une figure qui s'est écroulée? Alors, pour Badinter, c'est le patriarcat. Le patriarcat est mort. Alors, elle dit dans la conférence qu'il est idéologiquement mort, et elle le dit très peu dans son livre. Hein. Moi, je pense que si elle le dit dans sa conférence, c'est parce qu'elle a dû se faire taper sur les doigts de nombreuses fois. Alors, elle précise bien que c'est pas vrai, il n'est pas tout à fait mort, c'est seulement idéologique. Mais dans son livre, elle n'en parle pas. Dans son livre, c'est effectif.
Oui.
Alors, s'il y a quelque chose qui est mort, attends, ce que je voulais dire, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est mort, c'est le personnage de l'homme responsable de la famille, responsable financièrement, du père pourvoyeur. Alors, je pense que ça, cette figure-là, elle a disparu, mais est-ce que ça nous a rapporté beaucoup à nous, les femmes? Alors ça, je ne suis pas si sûre. Et je ne crois pas que cette mort du père pourvoyeur a voulu dire la mort de la domination des femmes.
Oui, oui. Oui, surtout, je veux dire, bon... Il y a ce problème, enfin, de ce qu'on peut observer de la paupérisation, quoi, enfin, du nombre de femmes. Bon, je donnais tout à l'heure la composition un petit peu des familles monoparentales, mais à ça s'ajoute le fait que les femmes sont quand même au chômage très très fortement pénalisées. C'est-à-dire qu'elles sont, bon, évidemment, plus nombreuses que les hommes, je veux dire, à être au chômage, et surtout, elles y sont sur des périodes beaucoup plus longue. Moi, je regardais un petit peu les statistiques de chômage là en France récentes. Bon, les hommes ont à 56% à peu près, je veux dire, retrouvent un emploi dans les 6 mois. Même plus tôt, hein, c'est entre 1 mois et 6 mois, je veux dire. Alors que les femmes, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à 56%, elles sont plus d'un an au chômage, voire plus de 2 ans. Donc là, vraiment, au niveau de ce que ça représente comme paupérisation, c'est un réel problème. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup frappée, enfin, dans ce livre, bon, même s'il y a des choses qui sont intéressantes, enfin, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est l'impression qui m'a laissée d'une incapacité à penser ce que c'est qu'un mouvement social. Chez cette femme, c'est-à-dire pour elle, les acquis bien minces qu'on a pu obtenir, je veux dire, c'est irréversible, quoi. Et en même temps, dans sa conférence, enfin en tout cas dans la partie question, hein, quand il y a des gens, enfin les rares personnes qui ont pu arriver à placer une question, il y a quelqu'un qui lui a posé la question par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, et là elle s'est complètement contredite, c'est-à-dire qu'elle a reconnu, je veux dire, que la politique de Reagan frappait très fortement les femmes, mais pas seulement les femmes, en fait, les services sociaux en général, les femmes, les noirs. J'ai été profondément choquée, enfin, par ce côté un peu rouleau compresseur, quoi, irréversible. Parce que malheureusement, l'histoire nous a montré, aussi bien passée que récente d'ailleurs, que les acquis sociaux ne sont pas irréversibles. Hein. Même si on sait que les conditions de vie et de travail, elles ont changé, évidemment, depuis le 19e siècle, hein, et qu'elles n'ont pas grand-chose à voir, enfin, bien heureusement, avec les conditions de travail de cette époque, en tout cas dans les pays dits développés. Parce que, je veux dire, ça aussi, c'est une caractéristique de cette conférence qui m'a profondément choquée, quoi. C'est non seulement c'est un discours de classe, enfin bon, c'est assez clair, quoi. C'est-à-dire qu'elle tient pas compte, je veux dire, de l'ensemble des femmes. Elle tient compte d'un certain nombre de femmes qu'elle connaît, quoi. Mais en plus, c'est un discours extrêmement ethnocentriste, c'est-à-dire qu'il tient absolument pas compte des autres pays, hein. Et quand on regarde un tout petit peu la condition, les conditions de travail et de vie des travailleurs immigrés, je veux dire, bon, non seulement dans leur pays, mais même ici. Je veux dire, enfin, bon, le bouquin de cet Allemand, Tête de Turc, je veux dire, nous renvoie vraiment dans les abysses, je veux dire, du 19e siècle, quoi. Donc, cette espèce d'impression, comme ça, que vraiment, bon, moi, j'aimerais bien être aussi optimiste qu'elle, quoi. Enfin, je suis pas très, très, très optimiste, quoi.
Ouais. Et c'est ça que qui m'a beaucoup choquée, c'est que... Effectivement, elle présente ce qui reste comme oppression, comme des anachronies. Ça ne doit pas exister. C'est comme, je ne sais pas s'il y avait encore quelqu'un qui fabriquait des dolmens ou des chars à bœufs, et que ça va disparaître. Alors, nous, on ne vit pas ça, quoi. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de faire non plus la liste de tous nos malheurs. Et puis, je pense qu'il y a eu, il y a une certaine lassitude à écouter, à rabâcher nos malheurs, et dire vraiment, c'est trop, on est de plus en plus pauvres, on est de plus en plus maltraités, on est toujours violés, battus, etc., etc. On a toujours les plus mauvais salaires. C'est vrai qu'on en a marre, mais moi, j'ai pas non plus envie d'écouter. Tout va bien, c'est fini, rentrez chez vous. Parce qu'il y a aussi ça. Moi, je trouve derrière son discours, d'ailleurs, elle l'a dit dans la conférence, elle a dit les choses vont changer, ça prendra 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Et en tout cas, c'est la fin des mouvements sociaux, c'est venu le moment de lutter de façon individuelle contre les petits restes d'oppression et de patriarcat.
Oui, tout à fait. Oui. Mais d'ailleurs, cette histoire, enfin, c'est marrant parce que c'est contradictoire, quoi. Enfin, son bouquin. Bon, moi, ça me gêne pas les contradictions. Hein, je veux dire, en règle générale, j'aime bien parce que je trouve que c'est ça qui est moteur, c'est ça qui fait changer les choses. Bon, les contradictions, ça me gêne pas, mais c'est le ton un peu péremptoire, quoi. Hein, je veux dire, qui me gêne, quoi. Le ton vraiment, rentrez chez vous et tout va bien, quoi. Hein, l'histoire de l'humanité avance son rouleau compresseur et il n'y a plus de problème. Je veux dire, tout est réglé. Or, bon, moi, je dis bien, effectivement, que je ne suis pas aussi optimiste qu'elle, quoi. Et puis, bon, quand je parlais des contradictions, bon, on a l'impression que, bon, même si c'est un groupe social très limité, etc., qu'elle parle de l'abolition de la division sexuelle du travail, mais de l'égalité professionnelle. Hein, bon, en gros, hein, c'est-à-dire, il n'y a plus de boîtes, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'endroits qui sont fermés aux femmes. Vous pouvez y aller, quoi. Hein, allez-y. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui y vont, quoi. Hein, on peut s'interroger pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui y vont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Et là, bon, bah justement, c'est assez intéressant parce que, autant, bon, sur la partie, j'avais lu un article d'elle dans le Nouvel Obs, là, justement, ce dont elle parle, là, sur l'homme enceint. Puis aussi, dans son bouquin, il y a un questionnaire là-dessus, enfin, sur un sondage d'opinion. Elle teste les gens sur les aspirations, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire ? Comment ils voient les rapports de sexe quand ils seront mariés, quand ils auront des enfants, etc. Et en fait, bon, là, on est dans le domaine des aspirations, et c'est bien ça, à mon avis, qui explique, je veux dire, le succès de son bouquin, quoi. Hein. C'est qu'il y a des gens qui, effectivement, cherchent de ce côté-là, et qui les interrogent, etc. Enfin, une partie du succès de son bouquin. Parce qu'il y a une autre partie du succès de son bouquin qui s'explique pour une autre raison, qui est tout simplement qu'on a envie que ça soit réglé. Hein. C'est-à-dire, on a envie que ça soit réglé, et elle conforte cette idée que c'est réglé, donc maintenant, passons à autre chose. C'est plus à la mode, les femmes. Hein. Je veux dire, moi, on m'a dit ça il n'y a pas très très longtemps. J'étais à un colloque, là, puis il y a un type, j'ai fait une communication sur le travail des femmes, et puis il y a un monsieur qui me dit, moi, les femmes, ça m'intéresse plus, c'est plus à la mode. Et puis j'ai pris un peu la balle au vol, comme ça, puis je lui ai demandé si les classes, c'était encore à la mode. Hein. Et il m'a dit, maintenant, c'est la nouvelle pauvreté. Alors, la nouvelle pauvreté...
Ça va,
on est toujours dans notre dedans, sujet, alors, ça va.
Oh, ouf, j'ai eu peur. Ouf,
ouais, d'accord.
On est encore à la mode.
Mais bon, la contradiction, enfin, qui est assez intéressante, je veux dire, bon, quand je disais, elle voit du côté du travail professionnel. Bon, on n'est pas d'accord, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, enfin, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, il y a effectivement un certain nombre de femmes qui arrivent à certains types de postes, etc. Mais la contradiction, c'est quand elle, effectivement, elle met les gens en situation. C'est-à-dire, maintenant, ils ne sont plus au niveau des aspirations. Ils sont dans le réel, quoi. Alors, il y a un tableau, comme ça, page 316, où elle parle des les couples citadins qui ont un ou deux enfants. Hein, comment ils se partagent le travail domestique, hein. Alors là, c'est éloquent, quoi. Si je retrouve ma feuille où j'ai marqué tout ça, je pourrais vous le raconter. Je ne sais pas si je vais la retrouver, d'ailleurs, parce qu'il y a un de ces bordels sur cette table. Ah, ben alors, je ne sais pas, je l'ai perdu. C'est dommage. Ah ben non, c'est pas celle-ci. Enfin, ça fait rien. Eh ben écoutez, je vous en parlerai plus tard. Hein. Je veux dire, c'est dommage. C'était intéressant pourtant. Parce que justement, ça collait au livre. Elle est où cette feuille?
Bon, allez, on va mettre un peu de musique pour chercher la feuille. Et non, c'est pas de la musique, c'est...
En France, on dit toujours la culture, la culture. Mais je me souviens, autrefois, chez mon grand-père... Il y avait accroché dans le salon trois Monet, trois Degas, trois Renoir, deux somptueuses tapisseries. Dieu merci, c'est moi qui en hérite après beaucoup de discussions. Eh bien, qui époustait chaque jour ces magnifiques tableaux? C'était les bonnes. Il y avait de quoi leur former le goût, il me semble. Porcelaine de Saxe et les fauteuils et les canapés Louis XVI, la splendide bibliothèque et l'argenterie et les cristaux, les bibelots, les bijoux, c'était pas de la culture. Une leçon d'art incomparable dont elle bénéficiait gracieusement sans débourser un centime. Et les conversations à table, ces répliques étincelantes de l'élite dont elle pouvait saisir des bribes au vol tout en présentant les plats. C'était pas de la culture. Bah allons, laissez-moi rire. Voulez-vous me dire ce qu'elles font à présent? Ben, elles travaillent à l'usine où elles fréquentent n'importe quoi. Des Portugais, pire peut-être pire. Se traînent dans le métro, elles élèvent de la marmaille, je leur souhaite bien du plaisir. Et elles habitent, je vous le demande. En banlieue, c'est agréable. Dans un de ces HLM tellement hideux que moi, passant devant, je refuse de les voir. Au lieu de loger dans une de ces chambres de service qu'on s'arrache à prix d'or et qu'on loue très bien à des petits étudiants charmants, elles ne voulaient plus de nos chambres, eh bien nous les avons reprises. Moi, je vois dans mon immeuble... Je les ai toutes raflées et j'en ai fait un appartement exquis, mimi-pinçon, très amusant, qui ravit tous mes amis.
Oui, bah c'était une bonne introduction, je trouve. C'était une bonne introduction au travail domestique, justement, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, quoi. C'est ça la contradiction de son bouquin, quoi. Enfin, une, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est qu'en fait, bon, on peut pas parler de fin de la division sexuelle du travail si on parle pas du travail domestique, hein. Et puis c'est là où, effectivement, ben, c'est difficile, je crois, pour elle de le concevoir. Mais néanmoins, quand même, page 316, elle en parle.
Elle a une bonne.
Crois-tu? Mais non, médisante.
Mais une bonne très cultivée.
Bref. Eh bien, oui, c'est à partir du moment où on descend un peu, ben, plus au niveau des aspirations, c'est-à-dire au niveau idéologique, hein, encore qu'au niveau idéologique, les choses n'ont pas si changé que ça. Enfin, moi, je pense à une femme, là, ici à Genève, qui vient de faire une étude sur le niveau d'aspiration des jeunes qui sortent de l'école de commerce, hommes et femmes, donc. Et on ne peut pas vraiment dire que ce soit fondamentalement différent, hein, je veux dire, les niveaux d'aspiration. Mais bon, supposons, je veux dire, qu'effectivement le niveau d'aspiration est changé, ce qui d'ailleurs dans certains milieux est le cas. Néanmoins, quand on est vraiment pris dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, je veux dire. Et d'ailleurs, elle le note. C'est ça qui est assez fabuleux, quoi. C'est-à-dire que page 316 de son bouquin, bon, ben, elle analyse effectivement l'emploi du temps quotidien moyen de citadins mariés ayant un ou deux mouflards. Eh ben, c'est pas drôle, hein. Alors là, j'aime vous dire que là, la division sexuelle des tâches, même aux soins aux enfants, parce qu'effectivement, quand même, le gros de sa problématique, hein, je veux dire, c'est que les hommes, maintenant, ils veulent des enfants. Et ben, les soins aux enfants, quand ils ont une activité professionnelle, les mecs, c'est pas terrible. Hein. C'est 0,17 minutes par jour, quoi. Oh, ben, les femmes, ça va. Hein. C'est quand même plus d'une heure. Hein. Et puis, si elles n'ont pas d'activité professionnelle, alors c'est 2 heures. Hein. Mais encore que, bon, c'est budgétant, c'est toujours compliqué. Hein. Bon, mais en fait, ça, c'est pour les enfants seulement. Hein. Mais alors, les autres activités ménagères, parce qu'on sait bien, hein, je veux dire que dans les activités ménagères...
Il n'y a pas que les enfants.
Il n'y a pas que les enfants, même si c'est vraiment sympa de jouer un peu, un petit quart d'heure avec les gamins le soir quand on rentre du boulot. Eh bien, je veux dire, les autres activités ménagères, alors là, le gouffre se creuse. On passe, pour les hommes ayant une activité professionnelle, 1h13. Et puis les femmes ayant une activité professionnelle, 3h53. Et surtout, mesdames qui n'avaient pas d'activité professionnelle, attention, le temps vous guette, c'est 5h53 par jour d'activité ménagère.
Oui, c'est assez parlant. D'ailleurs, je crois qu'il y a ces fameuses statistiques qui sont sorties sur Genève, qui sortaient quand même, qui disaient qu'une une femme qui avait 3 enfants, elle faisait plus que 47 heures par semaine, hein, c'est ça, je crois.
Oui, je les ai, là, oui, oui. Proportion de femmes mariées de 20 à 64 ans a consacré 47 heures ou plus par semaine au travail ménager, selon le nombre d'enfants. Alors, selon le nombre d'enfants... Alors, sans enfants... Là, c'est 17,6% de femmes qui consacrent plus de 47 heures de travail ménager par semaine sans enfants. Dis donc, hein, elles aiment le ménage. Et puis, un enfant, alors là, ça grimpe, quoi. Hein, c'est-à-dire que plus on a d'enfants, on passe de 25 à 4% de femmes qui consacrent plus de 47 heures de travaux ménagers donc, hein, par semaine. Avec un enfant, avec 2 enfants, il y en a 36%. Avec 3 enfants, il y en a 45%. Avec 4 enfants, Dieu sait, heureusement, il y en a moins en moins. Il y en a quand même 52%. Et puis 5 enfants et plus, et ben alors là, ça se stabilise. Donc je vous conseille, si vous hésitez entre 4 enfants et 5 enfants ou plus, et ben faites-en plutôt carrément plus, parce que vous ferez moins de travail ménager.
Oui, effectivement, je crois que ce problème, il est assez crucial, parce que, bon, c'est une chose dont elle n'a absolument pas parlé dans son livre, ou justement par la bande, parce que moi, je pense que si à part, disons... Si on prend les deux côtés, du côté professionnel, c'est vrai, on voit quelques femmes qui s'occupent, qui ont des postes de cadre, des postes dans la hiérarchie. Bon, le contraire, on voit qu'il y a le taux d'hommes qui s'occupent de leurs enfants, le taux d'hommes au foyer, je crois qu'il est tellement bas que statistiquement, on peut même pas en parler, je crois.
Non, on peut parler du travail à temps partiel, on en parlera après, ouais, parce que là, on a des statistiques, ouais, qui sont intéressantes.
Mais en tout cas, moi, de tout ce que je connais et de tout ce que je peux voir autour de moi, les femmes qui font vraiment un projet de carrière, leur travail ménager, c'est pas sur un homme qu'elles le reportent, et sur une autre femme. Elles ont des bonnes, c'est vrai, comme on vient de l'entendre dans le sketch. Si on veut vraiment avoir une carrière, si on veut vraiment faire carrière, on a une bonne.
Ou bien sa version moderne, qui est intéressante, c'est la jeune fille au père, oui. La jeune fille au père, avec quand même la femme de ménage, parce que la jeune fille au père, alors là, je vous dis tout de suite, si vous avez l'intention d'en prendre une, et puis celles qui en ont, ils doivent savoir, c'est qu'en fait, souvent, très très souvent, ça allège le travail du mari, mais en tout cas pas celui de sa femme, parce que là, je veux dire, très très souvent, la femme, elle se retrouve avec une adolescente en plus, c'est-à-dire que non seulement elle a ses gamins à s'occuper, mais en plus, elle a une jeune fille dont elle a la charge aussi.
L'amour chasse à la vie, nous faisons tout autant que nous sommes. Avec nos corps, il la chasse à l'homme. C'est un gibier de qualité qui se dérobe et qui s'étonne de nous trouver à ses côtés, il y a mal d'homme. Sonnez les corps pour la lali, sonnez, sonnez sans répit. L'homme devient lâche quand il se cache, unissons-nous contre lui. Il faut vouloir, il faut payer le prix et le chasser sans merci. Il faut vouloir, il faut payer le prix et le traquer jour et nuit.
chasse, à l'amour chasse à la vie, nous faisons tout autant que nous sommes, avec nos corps, avec nos cris, la chasse à l'homme. Ève, avant nous, avait compris que l'homme sans le paradis vaut mieux qu'un paradis sans homme, Dieu me pardonne. Sonnez les corps pour la lali, sonnez, sonnez sans répit. La chasse à l'homme est éternelle, la chasse à l'homme est cruelle. Et au lecœur, il ne faut pas faiblir, refuser même un sourire. L'homme est menteur, l'homme est aussitôt richeur, il joue avec le bonheur. Chasse à l'amour, mais sans permis, on a beau faire autant que nous sommes, avec nos corps, avec nos cris, la chasse à l'homme. Beau matin, dans nos bagages, on trouve un gars, une vraie brute, qui nous entraîne dans son sillage sans trop de lutte. Sonnez mon corps, oh la la, il a mis son complet gris. À la mairie, sous le ciel bleu, le permis de chasse est pour deux. Adieu salon, adieu piscines et bars, j'ai du gibier plein l'armoire. Il a écrit sur la porte du salon, chasse gardée en toute saison. Puis il sortit chasser pour lui. Puis il sortit chasser pour lui. Oh la vache! Puis il sortit chasser pour lui. C'était cette nuit. Oh la chasse à l'homme.
Je vous rappelle juste que vous êtes sur Radio Pleine Lune entre 8 MHz, débat sur, autour de Badinter, avec Badinter, puisqu'on a écouté sa conférence. Et notre téléphone est ouvert à vos commentaires au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse.
Oui, oui c'est vrai. Ben, comme elle n'est pas là,
on va enfin pouvoir poser quelques questions, parce que ça n'a pas été facile ce soir-là. D'autant que Madame Badinter, je veux dire, les questions gênantes, elle a une manière assez fabuleuse, enfin je veux dire assez remarquable, hein, d'esquiver le débat. C'est-à-dire que quand il y a des questions qui lui étaient posées sur l'anthropologie, moi je ne suis pas anthropologue. Hein. Sur l'histoire, c'est la même chose. Moi je ne suis pas historienne, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas sociologue, je suis philosophe. Hein. Et bon, alors que le livre quand même, je veux dire, bon, de la philosophie... Moi, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Enfin, on en parlera à la fin parce que, je veux dire, bon, il y a quand même une trame derrière qui est... On en parlera tout à l'heure. Mais par contre, c'était très difficile de poser des questions. Bon, d'abord parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis ensuite, bon, donc un temps minuté. Mais ensuite, c'est pas possible de l'interroger malgré tout ce qu'elle annonçait au début et ce ton mesuré. C'est très, très difficile d'avoir un débat parce qu'elle esquive, quoi. Elle esquive. Alors bon, si vous n'avez pas de jeune fille au père et si néanmoins... Vous avez quand même envie de continuer à avoir une activité professionnelle.
Et si vous avez envie ou si vous devez.
Ou si vous devez,
y a,
bah
y a
oui.
Quand même, Madame Badinter n'a peut-être pas ce problème, mais beaucoup d'entre nous ont gagné
d'autres
côtes.
Long, tout à fait. Mais, c'est-à-dire que ce n'est pas les professions dans lesquelles on travaille qui vont effectivement en plus bien pouvoir nous rémunérer. Mais enfin, bon, certaines d'entre nous y arrivent, donc c'est celles en général qui restent à plein temps. Hein. Qui restent à plein temps, plus celles qui effectivement ont déjà des enfants qui sont un peu grands ou qui sont seules et qui n'ont vraiment pas le choix. Hein. Mais bon, si on sait quand même qu'à la naissance du premier gamin, du deuxième, et puis alors a fortiori du troisième, les femmes, surtout si elles n'ont pas une bonne formation et puis une bonne qualification professionnelle, je dirais, ont grande chance pour devenir ce qu'on appelle des actifs discontinus ou passer à temps partiel. Moi, je me suis dit quand même, c'est intéressant parce que puisqu'il n'y a plus de division sexuelle du travail, on va voir comment ça se passe du côté du travail à temps partiel, parce que c'est quand même ça qui rend compte aussi de la charge du travail domestique. Alors si les hommes y font tout, il n'y a plus de problème, ça veut dire que ça doit sûrement se voir au niveau des statistiques. Hein. D'ailleurs, c'était une chose qui nous avait été dite, au colloque de Lausanne, là, sur, vers une éducation non sexiste. En fait, les hommes travaillent tous à mi-temps, ils peuvent s'occuper des enfants, de l'âme du ménage et tout, c'est le banard. Alors en Suisse, il y a 2% d'hommes qui travaillent à temps partiel. Et en France, c'est quasiment pareil, c'est 1,9%. Et puis la fameuse augmentation de l'activité féminine dont tout le monde nous rabâche les oreilles en nous disant que vraiment c'est fulgurant, eh ben, en regardant de près, d'abord on s'est rendu compte que les femmes célibataires, depuis le début du siècle, c'est le même taux. 70% de femmes célibataires qui travaillent. Bon, là, alors évidemment, ce qui a changé depuis le début du siècle, c'est que maintenant elles sont salariées, alors qu'avant elles étaient plus des travailleuses rurales, etc. Bon. Donc ça déjà, du côté des femmes célibataires, il n'y a pas grande différence. Mais par contre, si on passe au taux d'activité des femmes mariées, alors en France, il y a effectivement 44% de femmes qui travaillent. Et puis ça dépend des classes sociales, ça dépend, je veux dire, des catégories socioprofessionnelles, donc ça dépend aussi des régions, ça dépend aussi de l'état matrimonial, hein, c'est-à-dire si elle est seule, elle est bien obligée de travailler. Mais parmi ces femmes, il y en a 16% de femmes mariées qui travaillent à temps partiel. Hein. Et en Suisse, alors entre 1960 et 1980, on a effectivement, on constate une augmentation du travail des femmes mariées, qui sont passées de 25% à 35%. Mais je veux dire, cette augmentation, elle se fait pour la même période, je veux dire, quasiment qu'au profit du travail à temps partiel. C'est-à-dire que entre 60 et 80, le temps partiel en Suisse est passé de 13% à 22%. C'est-à-dire quasiment la différence entre le taux d'activité des femmes mariées en 25 ans. Hein. Alors, bon, on s'interroge, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment dans cette période-là, qu'elle nous l'a prédit pour l'avenir. Mais moi, je suis assez pessimiste parce que j'ai regardé encore les taux de chômage en France, les tout derniers, là. Je ne peux pas vraiment dire que je sois tout à fait d'accord avec Mme Badinter sur l'abolition totale de la division sexuelle du travail.
Le joueur de football qui vient se casser le bout du nez, le bowling et puis le wrestling, le softball et puis le baseball. Mais moi, tous ces sports, ça m'endort. J'aime mieux rester dans ma cuisine et faire semblant de t'écouter. J'aime mieux rester dans ma cuisine plutôt que de vous entendre parler. La voiture de qui est le dernier modèle de cette année, puis celle de Gilbert, qu'aurait besoin d'être réparé, puis le moteur neuf de Frédéric qui ne roule pas assez vite. Mais moi, tous ces chars, ça m'endort. J'aime mieux rester dans ma cuisine plutôt que de m'asseoir au salon.
Bon, puis pour terminer, puisque Mme Badinter est philosophe, moi, je vais pour le coup, alors vraiment, poser une question philosophique. Ça fait sérieux comme ça, mais c'est quand même une question que je me pose. Parce que, l'égalité dans les droits, puis la mise en application de cette égalité, ce qui est pour le moins discutable pour le moment, est-ce que ça signifie la similitude ? C'est-à-dire, est-ce que l'autre, puisque l'un et l'autre, hein, EST, donc être, doit-il être le même ? Est-ce que l'autre doit être automatiquement le même ? Et ça pose des questions très importantes, surtout lorsque Madame Badinter prétend, et heureusement que ce n'est pas le cas, que l'un est l'autre, et qu'il n'y a plus de rapport sexué que de rapport fusionnel. Bon, moi j'ai lu l'interview qu'elle avait faite dans la Tribune, je veux dire, c'est ça, les rapports sexués maintenant, c'est des rapports fusionnels, c'est-à-dire qu'on cherche chez l'autre le même que soi. Et bon, s'il y a bisexualité chez tous les êtres humains, aussi bien hommes que femmes, est-ce que celle-ci ne doit pas empêcher de penser l'altérité ? Et le modèle qu'elle propose, qui est quand même très très ethnocentriste, c'est-à-dire qu'elle dit, bon, c'est un modèle des sociétés occidentales développées, mais il se répand, je veux dire, qui est un modèle non seulement ethnocentriste, mais impérialiste, tient pas compte, je veux dire, du tout de ce qu'est l'autre. Et moi, je trouve très très inquiétant, parce que c'est effectivement complètement l'idéologie des classes moyennes actuellement, que c'est pas du tout ce qui se passe, mais que ça risque de devenir la norme, que l'autre n'existe plus. Et bon, on l'observe, enfin, je veux dire, dans la montée de la xénophobie en France, on l'observe aussi dans l'analyse, je veux dire, que moi, je ne fais pas du tout de la même manière qu'elle du phénomène terroriste. C'est-à-dire qu'effectivement, pour affirmer son altérité, on est obligé, vraiment, d'avoir recours à des moyens qui sont effectivement beaucoup plus violents, parce que justement l'altérité elle est plus reconnue. Donc moi je me pose vraiment cette question, alors en fond et en filigrane du bouquin, je veux dire, bon, il y a encore plein d'autres choses avec lesquelles je suis pas d'accord, enfin sur la centralité de l'enfant, sur l'analyse qu'elle fait de la volonté des hommes d'avoir des enfants, je veux dire, mais bon, moi je vais clore là-dessus, enfin je vais clore sur qu'est-ce que ça signifie que l'autre soit soi-même.
Sur Radio Pleine Lune, 93,8, une présentation d'Elisabeth Baninter, une présentation un peu critique.